Voilà, merci beaucoup. Bien des choses ont été dites et la continuité de ce que nous avons déjà dit, j'aimerais vous inviter à lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. La première épître aux Corinthiens, les versets 12 à 27. C'est notre sœur Farah qui va nous lire maintenant ce texte.
Il fonctionne ? Oui, c'est bon. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en manque du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas, elle n'en manque du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il lui. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui peuvent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Tous pour un pour tous. C'est le titre que je voudrais donner à mon message ce matin. Tous forment un seul corps, l'Église. Et un corps, l'Église, et pour tous ses membres, tous ceux et celles qui proclament le nom de Seigneur, qui croient en Jésus-Christ. C'est une belle déclaration que de dire cela. C'est une belle vue d'esprit. C'est un beau slogan, mais est-ce que cela trouve sa concrétisation dans notre vie d'Église? Est-ce que tous les membres de notre Église marchent ensemble pour former un seul corps? Qu'en est-il réellement? Dans notre vécu. Est-ce que notre diversité est respectée? Dans l'unité, bien sûr, que nous vivons en Christ. Telles sont les questions, entre autres, qui peuvent se poser sur la base de ce texte, sur l'idée de l'unité et de la diversité de l'Église. Parler de la réalité de la diversité et de l'unité dans son Église locale, cela pourrait s'avérer un peu difficile à cause de ce que cela peut évoquer ou à quoi peut renvoyer dans notre parcours des uns des autres, notamment les blessures que nous pourrions avoir dans ce cheminement vers l'unité. Mais en même temps, il y a une réelle richesse, une réelle bénédiction dans cette diversité que nous avons au sein de la même famille de Dieu, comme cela nous a été rappelé par le témoignage de Myriam. C'est donc avec joie que je voudrais vous retenir sur ce sujet. Un sujet qui a été choisi par les jeunes lorsque nous les avons sollicités. Ils ont fait ce choix à une grande majorité. La première chose que l'apôtre Paul souligne, c'est le va-et-vient entre l'unité et la diversité en l'Église. C'est le verset 2. On passe d'un seul corps à la diversité des membres. De la diversité des membres à un seul corps. Nous avons là un passage de l'unité à la diversité, de la diversité à l'unité. Il y a un enrichissement qui se fait et qui se développe dans ce va-et-vient régulier. La diversité n'est pas une menace pour l'unité, mais bien au contraire, elle l'enrichit, elle la renforce et elle la rend encore davantage solide. Mais nous ne devons pas, me semble-t-il, ne tromper, car le fondement d'une telle construction n'est pas un fondement humain, Mais c'est un fondement divin. C'est dans un esprit que nous avons tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. C'est le verset 13. En Jésus, nous avons reçu le même esprit, l'Esprit Saint, que Dieu envoie pour habiter, pour tabacler en nous. Et à partir de là, nous intégrons une nouvelle société, une nouvelle humanité, l'Église, le corps de Christ, où les barrières ethniques, sociales n'ont plus leur place. Le Saint-Esprit fait naître une communauté fraternelle où tous forment qu'un seul corps malgré les différences qui ont habituellement effet séparateur. Pour faire comprendre cette importance, c'est l'importance de cette unité dans l'adversité, l'apôtre Paul va donner une image, va employer l'image du corps avec ses plusieurs membres. D'abord, Paul évoque le cas où chaque membre tire de son corps, sans tenir compte des autres membres. On se retrouverait ainsi avec des membres qui se déchirent et qui finissent souvent par mourir parce qu'ils ne peuvent survivre à eux seuls en dehors du corps, même s'ils sont des organes importants, voire même vitaux. Ils ne pourront pas survivre à eux seuls, ils ont besoin du corps. Ce sont les versets 15 à 19. Deux réactions des membres sont soulignées dans ce passage. D'abord, nous avons ceux qui se méprisent et qui se disent « parce que je ne suis pas autre chose, donc je ne fais pas partie du corps ». C'est le cas du pied, c'est de l'oreille. Et ensuite viennent les membres qui sont trop conscients de leur importance, au point même de s'estimer par moments à eux seuls. Ils peuvent être considérés ou former le corps, c'est le verset 21. Au premier, c'est-à-dire les faibles, l'apôtre Paul rappelle leur importance dans le corps. Chaque organe a une fonction particulière. Chaque organe a une fonction particulière qu'il doit remplir au sein du corps. Et toutes ces fonctions doivent être accomplies pour que le corps puisse vivre en harmonie. Donc chaque membre est important, y compris les plus petits, s'ils ne sont pas souvent sur la scène et qui sont souvent discrets. Au passage, on pourrait souligner combien de membres discrets, je suis persuadé que vous connaissez quelqu'un de votre entourage, combien ils sont très très efficaces dans leur service. Les membres les moins honorables et les moins distants doivent être couverts, habillés d'honneur, dit l'apôtre Paul, et il faut prendre soin de chacun. Versets 23 et 24. Quant aux membres occupant une place importante, l'attention est grande pour eux de penser qu'ils sont suffisants pour former l'ensemble du corps. C'est à partir de là que peuvent naître des divisions, des séparations, des jalousies. L'un des dangers qui guette ces chrétiens en vue, ce sont les ambitions personnelles. Et à ce sujet, on vient de nous rappeler de ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'ils discutaient pour savoir qui était le plus grand entre eux, parmi eux. Jésus répond, si quelqu'un veut être ou désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous, le serviteur de tous. Deux épisodes précèdent cette scène et cette interrogation des disciples. D'abord, c'est la transfiguration et ensuite, c'est le paiement d'impôts. Et dans ces deux épisodes, l'apôtre Pierre a joué un rôle remarquable, un rôle en tous les cas qui le distingue de tous les autres. De ce fait, les disciples commencent à se poser la question pour savoir qui est finalement le plus grand dans le royaume des cieux. Cette question révèle leur présupposé, c'est-à-dire de dire, chez les disciples, pour eux, il y a une hiérarchie entre les membres dans le royaume de Dieu. Et Jésus va répondre, il va leur dire d'abord, il place un enfant au milieu d'eux en les invitant à devenir comme lui, et de ce fait, il déplace la question pour savoir non pas qui est le plus grand, qui est le plus petit. Et le plus important, c'est de savoir si vous allez entrer ou pas. Comment entrer? En d'autres termes, Jésus écarte complètement cette hypothèse de la hiérarchie dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est-à-dire du plus grand, la grandeur, etc. Et il va les inviter à s'intéresser à la seule possibilité, finalement, d'entrer dans la famille de Dieu, c'est-à-dire les grands doivent devenir petits pour entrer dans le royaume de Dieu. Le petit est grand dans le royaume des cieux, dans l'amour de Dieu, dans l'Église, dans cette nouvelle humanité. Non pas parce qu'il va grandir dans un processus de croissance, mais parce qu'il est justement petit. C'est ce statut de petit d'enfant que Jésus invite les disciples à chercher, à acquérir après, avec la conversion. Voilà donc ce dont nous pouvons nous rappeler régulièrement chaque fois que la tentation, ou devrais-je dire la folie des grandeurs, frappe à notre porte pour ne pas céder à cette tentation qui peut être à l'origine de bien des souffrances. Restez petits à nos propres yeux, restez petits aux yeux de ceux qui nous entourent et bien sûr aux yeux de notre Dieu. Un autre domaine où les tensions peuvent aussi voir le jour au sein de l'Église et menacer son unité, ce sont les différences d'origine ethnique des membres de l'Église, comme tout à l'heure Myriam avait fait allusion. La première difficulté sérieuse que rencontrent les premiers chrétiens dans le Nouveau Testament, au chapitre 6 des Actes des Apôtres, est la question de l'aide alimentaire qui est destinée pour les veuves. Et il y a deux groupes. Les deux groupes sont juifs. Mais il y a un groupe juif originaire de la Palestine, donc hébraïque, qui est très marqué, culture et ancré dans la tradition juive. Et vous avez un autre groupe qui vit à l'extérieur de la Palestine et qui était très influencé par la culture grecque. Notez que nous avons affaire à la même ethnie. Hein, les deux groupes sont juifs. Et pourtant, l'homme culturel, entre guillemets, a failli faire éclater l'Église de Jérusalem. Mais à vrai dire, les vrais problèmes, les vraies difficultés sur la question de la diversité culturelle vont la rencontrer lors de la conversion des non-juifs. Donc, de Actes chapitre 11. Et l'une des difficultés rencontrées, c'est que les chrétiens d'origine juive et non-juive touchent à l'alimentation. Les juifs ne mangeaient pas avec les non-juifs. Les juifs avaient des règles très strictes sur la manière de manger, sur ce qu'il faut manger, mais les non-juifs mangeaient n'étaient pas en tous les cas sur cette base-là. Et du coup, il y a une réelle différence culturelle sur le manger pour la vie communautaire. Et cette différence, entre guillemets, culturelle sur le manger et boire, peut trouver, à vrai dire, son application dans plusieurs domaines dans la vie de l'Église. Et si je veux penser à notre Église en particulier, je pense ici par exemple au cantique que nous chantons. Pour certains parmi nous pensent qu'il faut mettre plus des chants récents, et d'autres, auprès, ils disent qu'il faut puiser dans notre héritage, c'est-à-dire les cantiques anciens. Et ainsi de suite, on se pose aussi des questions sur quel genre de musique il faut adopter dans l'Église, quelle forme de culte, et puisqu'on y est, quelle forme de prédicateur, encore de prédication que nous aimerions avoir. Et nous pourrions encore rallonger la liste. Je veux bien entendu pas relancer le débat, d'autant plus que nous avons un très bon équilibre ici sur la question des chants ou des différentes appréciations que nous pouvons avoir les uns et les autres, mais cette diversité d'opinions, d'appréciations est liée aussi à notre parcours, culturel, personnel, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a encore d'autres domaines, il me semble, où nous pourrions avoir des différences, et on se rend compte parfois qu'il se fait d'être deux, en fin de compte, pour commencer à avoir des difficultés de communication, d'organisation, et surtout pour qu'il y ait des malentendus, des sous-entendus. Et c'est ce que nos jeunes vont essayer maintenant de nous illustrer.
Chers et sœurs, chers tous, imaginons une chose impossible. Imaginons que les membres du corps, tout d'un coup, ne soient plus solidaires. Imaginons qu'ils se jalousent, se méprisent les uns les autres. Imaginons même qu'ils quittent leurs fonctions.
J'aimerais être une main.
J'aimerais avoir 5 doigts, 10 doigts même, très agiles, et pouvoir attraper, caresser, tricoter, ou même peindre. Et puis, j'aimerais écrire des choses très importantes. Mais moi, je ne suis qu'un pied raide et mobile. Alors, je préfère m'en aller.
Comme j'aimerais être un œil, bien luisant, avec de la couleur. Je serai très important. Je verrai tout avant tout le monde. Mais je ne suis qu'une seule oreille, sans iris ni pupille. Ça me désespère. Je préfère m'en aller.
Comme j'aimerais être une bouche. Si j'étais une bouche, je dirais des choses extraordinaires. Toutes les oreilles m'écouteraient. Mais aujourd'hui, les oreilles nous méprisent, nous l'aînés. C'est un scandale. Ferme mon allée.
C'est toujours toi qui casses tout. J'en ai assez, va-t'en.
Mais si tu regardais un peu ce que je fais, tu ferais sûrement moins de bêtises aussi.
Je suis trop énervée. Pour me calmer, je vais lire une histoire. Dans la Bible, bien sûr. Mais c'est passionnant! J'aimerais bien que la fin... C'est au dos de la page. Comment faire?
Tu vois, sans moi, tu es condamné à recommencer éternellement la même histoire. Tu sais, il est bon de pouvoir tourner la page dans la vie. Et moi, si tu me fais confiance, je peux t'aider.
Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes tous de pauvres idiots. Des esclaves.
Voilà ce que vous êtes. D'ailleurs, vous ne savez qu'obéir à des ordres. Sans moi, vous êtes des incapables. Allez-y pour voir. Essayez de bouger sans que je vous donne l'ordre. Je suis indispensable. Je suis le chef suprême. Autonome, autosuffisant. D'ailleurs, je vous donne l'autorisation de partir. Bien. Passons aux choses sérieuses. Ce qui compte, c'est de bien réfléchir. Tout projet n'est pas mûri en profondeur et voit à l'échec. C'est moi qui conçois, imagine, organise. Quoi? On me provoque? Bien, vous allez voir à qui vous avez affaire. En avant! Au secours! Au secours! Mes membres qui ne sont plus là! Au secours! Au secours!
Mais, notre texte, à vrai dire, met en valeur aussi, d'une manière beaucoup plus importante, l'unité du corps, l'unité des membres et non pas leur vision. Tous les membres forment qu'un seul corps. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Précise Paul au verset 20. Il y a un seul corps, un seul esprit, écrit Paul en Éphésiens 4, le texte que nous avons lu au début de notre culte. D'où l'importance d'entendre et de recevoir l'exhortation de l'apôtre Paul qui vient juste avant cette belle déclaration. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. C'est Éphésiens 4, le verset 3. Cette unité Nous l'avons de fait. Elle est acquise par notre union à Jésus-Christ. Notre unité, c'est une unité que nous n'avons pas à acquérir, mais c'est une unité que nous avons à conserver. Cette belle unité de l'Église franchit, transcende toutes les barrières. Il y a donc plus de différence entre juifs et non-juifs, entre esclaves et hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un, écrit l'apôtre Paul dans Galates, au chapitre 3, le verset 8. Donc, notre unité est un fait. C'est une réalité en Jésus-Christ, une réalité qui ne gomme absolument pas notre diversité, la diversité des membres, mais bien au contraire, une réalité qui laisse la place, à toute diversité de s'exprimer dans l'harmonie, diversité ethnique, culturelle, sociale, etc. Notre diversité est une richesse pour notre unité. Cela implique que nous devons faire les efforts nécessaires aussi pour aller vers l'autre, le rencontrer, sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière d'aimer Dieu. Cette démarche peut être parfois exigeante. Elle n'est pas donnée, elle ne s'improvise pas, mais elle s'apprend dans la communion fraternelle. Cette démarche vers l'autre implique, d'une certaine mesure, une réelle implication de notre intelligence, sensibilité, rationalité, de notre imagination, motivation, notre volonté et parfois même une détermination d'aller jusqu'au bout de notre cheminement vers l'autre, vers notre frère, vers une sœur qui n'est pas de la même culture, entre guillemets, que nous. Ce chemin vers les autres nous permet de découvrir la richesse humaine, la richesse spirituelle que nous avons au sein de l'Église. Les uns ont le sens de l'organisation, les autres ont le sens de la musique, d'autres encore le zèle pour le témoignage, l'évangélisation, le sens de la famille, d'autres la spontanéité, et ainsi de suite. Et tout cela forme la force de la vie d'une Église, notre Église. Cette diversité riche, variée, de notre Église se vit dans une belle unité, plusieurs expressions et un seul fondement, le Christ. Il nous faut noter que l'unité des membres du corps ne trouve pas sa force dans la complémentarité des uns et des autres, comme pourrait le laisser croire, mais elle remonte à la volonté de Dieu qui a bien voulu placer chaque membre là où il veut. Verset 18, il dit « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Nous pouvons encore aller plus loin. Cette unité remonte à l'être de Dieu même, révélé par Jésus-Christ, le Dieu un et trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La diversité que nous vivons au sein de l'Église tire sa force, tire sa légitimité dans notre conception de Dieu lui-même. Un pour l'unité, Dieu est un pour notre unité, trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit pour notre diversité. La conception de Dieu dans les religions monothéistes, je pense en particulier au judaïsme et à l'islam, où l'unité de Dieu est une unité unitaire, lorsqu'on parle de Dieu, donc on parle d'une unité, d'un monothéisme pur ou strict, il n'y a aucune place pour la diversité. C'est dans cette conception de Dieu, il est normal, voire même logique, que la vision de la communauté, d'ailleurs, soit une communauté qui ne fait aucune place à la diversité et à la pluralité. On parle d'une communauté uniforme où il n'y a pas de place, où il y a de la place simplement pour une seule, entre guillemets, culture. C'est ainsi, par exemple, dans la communauté humaine, la seule langue, la seule culture religieuse, entre parenthèses, pour s'approcher de Dieu, c'est la culture et la langue arabe. Bien que la plupart des musulmans ne soient pas arabes. Par contre, dans notre conception de Dieu trinitaire, il y a une raison pour la diversité au sein de l'Église. Vouloir gommer cette diversité, rejeter cette diversité qui existe même dans l'être de Dieu, cette diversité que Dieu a voulu. Donc ce serait une inconséquence dans notre foi chrétienne. C'est pourquoi il nous faut chercher la diversité, la cultiver dans cette belle unité que nous avons, notre Seigneur Jésus-Christ. La diversité dans l'unité que nous avons en Dieu, Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent trouver sa concrétisation dans notre communion fraternelle, dans nos échanges mutuels, et j'aimerais vous proposer quelques domaines dans lesquels cette unité peut se manifester. Le premier domaine que nous rencontrons d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres est celui de la solidarité, comme la solidarité dans les besoins, besoins matériels pour accompagner, aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ceux qui sont et ceux qui peuvent aident ceux qui sont dans le besoin. Un autre domaine dans lequel notre unité se manifeste est celui de la solidarité dans les peines et dans les joies. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le verset 26 du texte que nous avons lu. Il y a là une sensibilité réelle à l'égard de nos frères et sœurs, aussi bien dans le moment de peine comme dans le moment de joie. Enfin, une dernière chose que je veux souligner ici, question concrète de notre unité, c'est l'harmonie relationnelle que nous retrouvons en Christ. Cette harmonie est fondée sur l'amour, le pardon de notre Seigneur. Une harmonie fondée sur la réconciliation que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes devenus des frères, des sœurs, les membres d'une même famille, membres d'une nouvelle humanité que le Père forme autour de son Fils par son Esprit Saint. Et le psaume 133 décrit justement la valeur de cette communion au sein de la famille de Dieu, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est cette belle unité dans la diversité que nous j'aime à nouveau vous illustrer.
C'est vrai? Pourquoi nous disputer?
C'est vrai, mon cher né. C'est tout de même toi qui donnes l'alerte quand ça sent le blé. Et puis, c'est grâce à toi que les parfums nous arrivent.
Ça, c'est sûr.
Mais c'est vrai d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Si dans le corps, il n'y avait que des yeux, comment ferait-on pour entendre les mélodies, la poésie, l'harmonie ?
Finalement, on est fait pour vivre ensemble.
C'est plus raisonnable. On est bien ensemble.
Ah oui? Oui.
Je suis...
Attends, j'essuie ta larme.
Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Conclut le verset 27 du texte que nous avons lu. Nous ne sommes pas unis uniquement les uns aux autres comme le seraient les membres d'une association humaine. Et nous sommes unis à Christ lui-même. Une union fondée sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Un amour dont nous sommes bénéficiaires. Un amour que Dieu répand dans notre cœur par son esprit. Un amour que nous sommes les. À manifester au cœur de nos diversités, de notre unité. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus à ses disciples. L'un de ses disciples a bien retenu le sang, puisqu'il le dira dans l'une de ses épîtres. C'est l'apôtre Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Connais Dieu. Amen.